Il y a plein de moments où je me suis dit pourquoi pas moi. Quand je suis montée sur scène, quand Flammarion m'a proposé d'écrire mon premier livre, Le complexe du trampoline, je me suis dit mais en fait ma première réaction ça a été les gens s'en fichent de mon histoire. Qu'est-ce que je vais leur raconter mon histoire? Et puis finalement, je dis non, je monte sur scène, je joue la pièce, pourquoi pas aller plus loin? C'est vrai que les gens me posaient plein de questions, moi, je me dis bon, je vais écrire toujours pareil pour les autres. Et puis là, en écrivant par contre Le complexe du trampoline, j'ai compris que c'était utile pour moi aussi. Et puis pour la BD Résilience et vous, on me nommait résiliente multirécidiviste, je me suis demandé ce que c'était ce titre. J'ai trouvé ça drôle et en même temps, j'ai trouvé ça assez juste. Et du coup, je me suis documentée, passionnée. Et je me suis dit, je vais redonner aux autres. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et pourquoi je n'écrirais pas un livre sur ce sujet-là pour permettre aux gens de comprendre ce que j'ai compris de manière plus vulgarisée, plus accessible? Ces dernières années m'ont permis de comprendre que j'avais une mission de vie et puis je me légitimise.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi? Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? C'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Pour ce nouvel épisode, je suis très heureuse de vous présenter une femme dont la résilience est le fer de lance. Caroline arrête très rapidement les études et décide donc de s'engager dans l'armée. Elle ne se sent pas à sa place et commence donc à faire des petits boulots avant de reprendre ses études. À 28 ans, alors qu'elle a entamé une belle carrière en marketing, un burn-out l'arrête, jusqu'à ce qu'à 32 ans, un cancer foudroyant l'envoie à l'hôpital pour plusieurs mois. Aujourd'hui, Caroline s'est relevée. Elle est devenue psychopraticienne, humoriste et auteure. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Caroline Leflour. Bonjour Caroline.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Eh bien, j'ai hésité longuement entre plusieurs objets et j'ai fini par choisir du rouge à lèvres rouge.
Pourquoi?
Alors, plusieurs choses. Lorsque j'étais malade, mon rituel beauté, bien-être du matin, c'était de me maquiller et de mettre du rouge à lèvres. Et le rouge, je trouvais que c'était dynamique et plein de vie, on va dire. La deuxième raison, c'est que j'aimais être féminine. Et je trouve que c'est hyper important de voir la féminité même dans la maladie ou dans le handicap. Mmh. Et je dirais que la troisième raison, c'est que... quand je monte sur scène aujourd'hui, mon rituel, c'est de mettre du rouge à lèvres et du vernis rouge à la chauve-souris, donc à moi en fait, quand je monte sur scène. Et pour moi, ça évoque l'énergie vitale, le partage, ça éclabousse de vie toutes les personnes que je peux toucher par le spectacle. Donc voilà.
Super. On va justement parler de ta maladie, de ta vie d'aujourd'hui. Est-ce que avant ça, tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi?
Alors, où est-ce que j'ai grandi? J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Surgères, en Charente-Maritime, près de La Rochelle, de 6 ans à 19 ans, dans une fratrie de 5 enfants. Aujourd'hui, on est 6, on a appris qu'on était 6 il n'y a pas longtemps. Grosse surprise de la fin d'année. Donc, 5 enfants, on s'appelle les Jackson 5, une famille très, très pleine de vie, d'humour et de rire. Beaucoup, beaucoup de rire et beaucoup de mouvement dans cette famille et dans cette vie. Donc, voilà, dans une petite ville, pas campagnarde, mais semi-campagnarde, on va dire. Donc, une petite, une enfance, voilà, où j'étais heureuse et pleine de questions déjà.
T'étais quel type de petite fille du coup ?
Moi, j'étais une petite fille calme et en même temps assez rebelle. J'étais une petite fille qui écrivait déjà des poèmes dans le jardin. J'avais peu d'amis, mais des amis très très importants pour moi. Et j'étais pleine déjà de poésie et de questions et de questions existentielles, quoi. J'aimais beaucoup parler avec les adultes, notamment. J'étais souvent au milieu des discussions, en train de refaire le monde avec eux. Enfin, c'était assez drôle, quoi.
Et c'était quoi tes rêves de petite fille?
Quand j'étais petite fille, je rêvais... c'était... D'abord, j'avais une aspiration globale, c'est que tout soit paix et gentillesse. Et ensuite, quand j'ai grandi, je rêvais de devenir une maman d'abord. Donc, c'est un rêve encore assouvi. Et après, plus tard, j'ai voulu devenir philosophe, comédienne ou psychologue. J'avais des grandes aspirations.
Et du coup, comment ça s'est passé pour toi au moment du choix des études ?
Eh bien, j'étais hyper douée en... C'est pas moi qui le dis, c'est ma prof de français en français. Et je voulais faire des études de lettres. Donc, j'ai passé d'abord une seconde L. Je crois que j'ai choisi L au début. Et enfin, à l'époque, c'était littéraire, donc. Et puis ensuite, j'ai expliqué à mes parents que je voulais faire des lettres. Donc, je voulais aller à la fac. Et là, l'accueil de la nouvelle n'a pas été super positif. Puisque, voilà, ils m'ont dit, non, ce serait quand même bien que tu fasses un vrai métier. Pour eux, c'était pas... un métier, enfin une voie qui permettait de déboucher sur quelque chose. Et donc du coup, fighting spirit avec eux, rebelle. Donc là, voilà, j'essaie de m'affirmer, mais j'ai un peu de mal. J'essaie de me débattre avec ça, mais j'ai un peu de mal parce que je suis pas hyper convaincue comme tous les élèves d'aujourd'hui de ce que je vais faire demain non plus. Je vais vers une voie qui me va, mais je sais pas où je vais exactement. Donc je peux pas argumenter plus que ça. Et donc, comme je commence à lâcher les études parce que je me dis que finalement j'avais des facilités, mais que on m'écoutait pas, donc j'avais plus trop envie d'en faire. Eh bien, j'ai été inscrite en STT, donc sciences techniques tertiaires, et j'ai passé un bac STT. Et voilà. Et après le bac STT, je suis pas allée à la fac, donc j'ai décidé d'arrêter l'école pendant une année et demie.
Et t'as fait quoi pendant cette année et demie ?
J'ai essayé de travailler. Parce que je travaillais tous les étés, donc je me suis dit, je castrais les maïs l'été, je ramassais les melons, enfin, je faisais plein de trucs. Et je me suis dit, j'étais en hôtellerie, donc je me suis dit, je peux faire plein de choses. Et puis, ce qui est génial, c'est que quand je passais des entretiens avec des employeurs potentiels, donc qui étaient des employeurs dans les assurances, dans des choses, je dirais plus bureaucratiques, tout le monde me regardait systématiquement en me disant, mais mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? Reprenez vos études, enfin, qu'est-ce que vous faites là? Donc j'avais toujours des petits jobs, mais à chaque fois, on me posait cette question-là. Et donc, du coup, j'ai fait un an et demi comme ça d'errance. Ensuite, j'ai décidé de m'inscrire dans l'armée.
Pourquoi l'armée ?
Parce que je voulais, je pense, récupérer les faveurs de ma mère et de mon beau-père. Et comme mon beau-père m'emmenait en manifestation militaire régulièrement et que j'étais très sportive, je me suis dit, allez, je peux pas faire le reste. Je m'autorisais pas à le faire, donc j'ai qu'à faire ça. Et puis, j'aurai un salaire et puis j'aurai un métier. Et je me suis engagée dans l'armée. Et quand on m'a appelée pour me dire « Vous êtes prise, c'est génial, est-ce que vous aimez le sport ?»« Oui, oui, je suis très sportive. »« Bon, on a une place dans les chasseurs alpins. »« Oh, super, ça se passe où ?»« À Bourg-Saint-Maurice, vous aurez la montagne autour. » J'ai dit « génial, j'y vais que l'hiver pour faire du ski, donc je vais découvrir la montagne. » Donc, je me suis engagée dans l'armée comme ça, dans les chasseurs alpins.
Ça a duré combien de temps ?
Ça a duré un an. Je regrette absolument pas, c'est ce que je dis dans le complexe du trampoline dans mon livre autobiographique, pardon. Je regrette pas du tout cette épreuve et cette leçon et cette expérience parce que ça m'a appris énormément, mais ça ne pouvait pas coller parce que je me demandais toujours pourquoi je faisais les choses. Donc forcément le sergent, j'en parle dans mon spectacle, me disait mais le four te pose pas la question, tu réfléchis pas à pourquoi tu fais, sauf que moi c'était pas possible. J'étais dotée d'un pourquoi intégré. C'est pas possible. Et donc, ça pouvait pas coller. Et donc, j'ai décidé d'arrêter. Mais cela dit, j'ai appris le dépassement de soi. J'ai appris à écouter mon corps un petit peu. J'ai commencé. Et j'ai appris surtout à dire non et à partir.
Ouais. Et donc là, tu décides de partir et tu dis, est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire après?
Non, je savais pas du tout. Donc, ce que je savais, c'est que je voulais pas ne pas travailler. Donc, il était hyper urgent pour moi que je puisse tout de suite travailler. Donc, j'ai d'abord travaillé chez McDonald's, qui m'ont tout de suite pris comme j'étais, pour le slogan. Et ça m'a vachement aidée, je regrette pas. Là, j'ai appris à être équipière polyvalente et puis me débrouiller. J'étais en autofinancement, puisque mes parents voulaient pas du tout m'aider. Ils m'ont dit que si t'arrêtes l'armée, tu te débrouilles. Je me suis autorisée à arrêter l'armée parce que je conversais avec mon grand-père qui avait fait l'armée et qui avait fait la guerre et qui m'a dit non, si tu te sens pas bien là-bas, pars. Enfin, je pense que c'était un des mieux placés pour m'autoriser à partir. Et en fait, du coup, j'ai donc travaillé chez McDonald's. Ensuite, je me suis dit, il faut que je trouve une formation en autofinancement. Et donc, j'ai fait un BTS action commerciale en alternance que j'ai commencé. J'avais 20 ou 21 ans.
Et tu avais une idée à ce moment-là de ce que tu avais envie de faire ?
Non, je savais que la communication commerciale pouvait me convenir parce que j'avais des facilités dans l'écriture et dans la relationnelle. Donc, en fait, par rapport à mes prédispositions. Mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire après, non. C'est comme ça.
Donc là, tu commences, là, du coup, tu commences le BTS Action Co. Là, tu dis, OK, ça me plaît.
Ouais, ça me plaît. Je tombe sur un tuteur génial, un homme qui m'a finalement recrutée. Il m'a avoué après parce que j'étais dans l'armée avant et que lui aussi. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas en tout cas de chemin de vie ou d'échec. Enfin, moi, je vois plus ça comme des choses qui nous amènent à autre chose. Ça s'est bien confirmé avec ça. Et donc, voilà, on me responsabilise, je suis hyper bien. Missionnée, on me laisse être créative dans le marketing, dans les actions commerciales qu'il fallait mettre en place. Et ce monsieur a joué un rôle très important dans ma vie parce que il s'appelle Philippe Drillon et je le remercie encore aujourd'hui parce qu'il a cru en moi et que il m'a donné l'opportunité de me prouver à moi-même que j'avais des compétences et des qualités.
Bah, c'est un beau cadeau.
Ouais, carrément, un cadeau énorme. Et donc, j'ai réussi, j'étais major de promo, parce que du coup, j'ai tout donné pour qu'il soit fier de moi et pour être fier de moi. Et j'ai réussi mon BTS Action Co. Haut la main.
Et après, qu'est-ce qui s'est passé ?
Après, j'ai été embauchée dans l'entreprise qui m'avait permis de faire le BTS en action commerciale, chez EDF, dans laquelle je suis un peu encore aujourd'hui, hein, puisque j'ai toujours une casquette de chargée de com un petit peu restreinte, puisque je suis en conversion totale. Et donc voilà, je suis embauchée et je continue à travailler. J'ai plusieurs expériences, mais je continue toujours à me demander pourquoi on fait les choses. Et puis on me propose de passer à une promotion cadre, donc je deviens cadre dans l'entreprise. Je voulais comprendre, participer à la stratégie, etc. Dans le marketing, donc là je me spécialise dans mon métier. Et puis je deviens chargée de programme relationnel, chargée de communication marketing sur différents marchés. Et burn-out à 28 ans.
Le burn-out, du coup, ça s'est passé comment
En fait, j'étais une jeune cadre dynamique. Il y a de la co-responsabilité pour moi dans le burn-out, hein, clairement.
On est complètement d'accord parce que, enfin, ouais.
Vraiment, il y a de la co-responsabilité. Donc, il y a de la responsabilité de mon entreprise qui vivait un processus de changement, mais qui n'avait pas vraiment l'accompagnement nécessaire pour ça. La conduite du changement, comme on dit, donc ça veut dire qu'en gros, on réorganise, on essaie d'être plus performant, on est plus sur la rentabilité. Et puis, qui a pas vraiment, je pense, bien été accompagné ou s'est bien fait accompagner pour ça. Donc, je me suis retrouvée face à une manager malveillante et donc qui n'a pas été arrêtée dans son processus et toxique, on va dire. Et donc, moi aussi, qui avais ma responsabilité de jeune cadre dynamique, de jeune femme qui voulait tout prouver, voulait se prouver à elle-même qu'elle était capable, qu'elle était responsable et légitime dans ce qu'elle faisait. Et donc, j'ai bossé comme une malade et j'ai trop travaillé. J'avais pas de personne. Vous entendez les cloches peut-être derrière?
Ouais, on les entend.
Ça a été l'alerte. Bah justement, c'est les cloches de l'alerte qui s'est passée. C'est que je travaillais énormément. J'avais pas d'horaire. J'avais pas de conjoint à cette époque. Et j'avais pas d'enfant. Et j'avais absolument aucun équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Je donnais tout au professionnel. Je maintenais aucun équilibre. Et je me suis mise à travailler sans m'arrêter. J'écoutais pas mon corps. J'étais un robot, quoi. J'étais working girl à bloc. Et puis, j'ai essayé d'alerter quand même en disant que j'avais trop de charges de travail, mais j'étais pas entendue. Et en même temps, moi, je ne me suis pas écoutée non plus. Donc, j'ai été jusqu'au craquage, c'est-à-dire le jour où tu es devant ton ordi, face à la fenêtre au 27e étage de ta tour et où tu dis, là, en fait, ton cerveau, il s'arrête. Et tu dis, faut que ça s'arrête. Et en fait, là, si la fenêtre avait été ouverte, s'il y avait une fenêtre ouverte, j'aurais sauté. Et là, je me suis rendu compte de cette pensée. J'ai commencé à trembler. Je suis partie de l'entreprise. Je pouvais plus me lever le lendemain matin. Processus, la machine qui se débranche, le corps s'arrête. Et là, je décide de me faire arrêter avec toute l'angoisse que ça génère, la culpabilité que ça provoque.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, la culpabilité qui est maximale à ce moment-là.
C'est énorme et j'étais un bon petit soldat toujours hein, et j'avais toujours ce besoin d'être reconnue, cette reconnaissance que j'avais pas l'impression d'avoir dans ma famille, dans mon schéma parental. Et donc, heureusement, j'ai rencontré les bonnes personnes, ma parole a été accueillie par la médecine du travail et j'ai pu d'abord me reposer puis ensuite me reconstruire.
Comment du coup tu as utilisé quoi comme technique, outil, type de professionnel pour te reconstruire ?
Alors pour me reconstruire, j'ai d'abord parlé. J'ai déjà savoir identifier que tu es en burn-out, c'est la première étape pour moi, j'en parle dans le complexe du trampoline. c'est identifier que tu es en burn-out. Donc souvent, il y a un déni évident par rapport à cette situation. Et donc, je me suis fait accompagner. Déjà, je dis merci à ma sœur qui m'a dit « Mais Caro, tu fais quoi ?» Et 23h, j'étais au travail, je me suis mis à lui mentir en lui disant « Mais non, je suis pas au travail, je suis à la maison. » Et en fait, là, je m'en suis voulu parce que je commençais à mentir à ma sœur. Je me suis dit « C'est grave, là. » Donc déjà, être bien entouré, ça aide parce que ça t'aide à rompre le déni. Ensuite, pouvoir en parler, identifier que tu es en burn-out, identifier le processus du burn-out pour comprendre que tu n'es pas la seule responsable dans ce processus-là. Ensuite, pouvoir verbaliser, exprimer, se connecter à son corps. Moi, je suis psychosomatothérapeute. Ma spécialité, c'est ça, c'est l'alignement entre la tête, le corps et les émotions. Et il s'agit de ça, en fait. C'est vraiment dans ce processus de pouvoir se dire « Là, j'ai été déconnectée de mon corps et de mes émotions. » Parce que, pour suivre beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là aussi, en tant que thérapeute, on a plein d'alertes, mais on les entend pas. Et ensuite, j'ai suivi une thérapie pendant de longs mois. J'ai beaucoup verbalisé, j'ai beaucoup exprimé mes émotions, ma colère, l'injustice, les sentiments de trahison, tout ce que j'ai pu ressentir. Et ensuite, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de me reposer.
T'as été arrêtée combien de temps ?
J'ai été arrêtée parce que j'ai eu du coup après pour le burn-out, j'ai déclenché des problèmes de dos très forts. J'ai eu des hernies discales, cervicales. J'ai été arrêtée quasiment un an et demi.
D'accord.
Et en fait, il y a eu un bouleversement de valeurs quand j'ai commencé à reprendre conscience connexion avec la vie normale et que j'ai commencé à me dire « Tiens, je vais peut-être me projeter à reprendre une activité, j'en ai besoin. » Là, mes valeurs ont été tellement bouleversées que je me suis rendu compte en revenant au travail que c'était pas possible. Et je me suis beaucoup questionnée, je me suis fait accompagner justement en bilan de compétences pour me remettre en cause sur mes valeurs et sur ce que mon travail pouvait m'apporter par rapport à ça et non pas l'inverse. Mmh. Et donc voilà, et j'ai été très accompagnée aussi dans ce processus-là. Et puis comme je suis quelqu'un de très curieux, je me suis aussi beaucoup documentée, je me suis inscrite à des accompagnements en ligne de développement personnel, de questionnement sur soi. Voilà, et j'ai avancé comme ça. Mais je me suis fait accompagner, c'est primordial, je trouve.
Ouais. Ah oui, c'est façon, on peut pas s'en sortir, s'en sortir tout seul. Mmh. Et donc là, au bout d'un an et demi d'arrêt, tu retournes dans l'entreprise.
Au bout d'un an et demi d'arrêt, je me dis que je vais retourner dans l'entreprise, je reviens et puis je me rends compte que je suis pas prête du tout. J'ai repris trop vite. Là, il y a un truc qui est important en tant que psy que j'ai envie de poser là, c'est le temps et l'écologie qu'on doit avoir avec soi-même, parce que le temps court pour un n'est pas court pour l'autre et inversement proportionnel ou égal. Donc c'est hyper important de s'écouter là-dessus. Et donc je tombe malade juste après. Juste après, je tombe malade. En fait, mon cancer se révèle à ce moment-là.
C'est un cancer de quoi ?
J'ai eu un lymphome B grande cellule primitive du médiastin. C'est un cancer qui est très agressif. Qui ne touche que les jeunes. Alors, j'étais hyper contente. Je me disais, ah ouais, super. Je suis jeune. Mais
t'avais quel âge ?
J'avais 32 ans. Et c'est un cancer donc, qui a été assez foudroyant et très foudroyant dans son agressivité. Hein. Et donc, entre le cœur et les poumons. Et donc, j'ai été tout de suite hospitalisée.
Comment tu t'en es rendu compte ?
J'ai eu des symptômes très clairs. J'en ai voulu un petit peu au médecin parce que on m'a taxé de nomadisme médical, alors que pour moi, j'étais pas du tout nomade. Je suis quelqu'un qui s'écoutait pas trop au niveau de la santé. Et donc, j'étais désespérée. Donc, mes symptômes étaient des sueurs nocturnes très, très fortes, à changer les draps deux fois dans la nuit. C'était quand même assez énorme. J'avais aussi des palpitations au niveau du cœur. Je comprenais pas trop ce qui se passait. J'avais des essoufflements aussi beaucoup. J'étais très, très vite essoufflée. Et un amaigrissement anormal. J'ai perdu 10 kilos en un mois. Et je comprenais pas ce qui se passait. Pour le coup, là, mon corps, pour le coup, si je l'écoutais pas encore assez, me disait clairement, je suis là, et j'étais obligée de chercher ce qui se passait.
Ouais.
Donc, j'ai été voir un médecin qui m'a, c'est ce que je dis dans La Chauve-souris, dans le spectacle. Je vais voir un médecin qui me dit, ça fera 50 euros, mais vous inquiétez pas, ça va passer. Je vais voir un deuxième médecin qui me dit, retournez voir le premier, et qui me fait payer 70 euros. Et je vais voir un troisième médecin qui me dit, on va peut-être faire un bilan sanguin. Et donc, grâce à ce médecin qui n'était finalement pas un médecin généraliste, mais un psychiatre, on m'a quand même taxé de... On m'a dit que c'était psychosomatique aussi. C'est peut-être pas pour rien que je suis devenue psychosomatothérapeute. On m'a dit que c'était psychosomatique. Donc moi, bonne élève, je suis allée voir une psy. Et en fait, c'était une psychiatre. Et elle m'avait déjà vue dans des consultations. Et quand elle m'a vue arriver, elle m'a dit « c'est pas possible, il y a quelque chose ». Ouais. Elle m'a fait passer un bilan sanguin. Et grâce à elle, j'ai été diagnostiquée le soir même.
Ouais. Et donc là, tu rentres à l'hôpital directement ?
Je rentre à l'hôpital, je suis prise en charge. On voit sur le scanner qu'il y a un gros souci, même la radio, hein, quand je suis allée chez passer une radio, parce que ma psychiatre m'a dit « je vous fais une ordonnance, passez faire une radio avant d'aller à l'hôpital », parce qu'elle avait envoyé mon bilan sanguin par fax à l'époque. Enfin même, oui, c'était par fax encore. Mais non, mais enfin, elle avait un fax d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi elle avait un fax. Bref, elle envoie le truc et c'était un interne de des hôpitaux de Paris qui lui a dit « il faut absolument qu'elle vienne aux urgences tout de suite ». Et il faut qu'elle passe une radio avant d'y aller parce que comme ça elle perdra pas de temps. Quand il a vu mes résultats sanguins, mes résultats étaient très alarmants. Et donc effectivement, quand je suis arrivée aux urgences avec ma radio, déjà le radiologue m'a pensé que je faisais un cancer des poumons, donc lui il m'a donné un verre d'eau et un mouchoir. Et quand je suis arrivée à l'hôpital avec mes examens, ils m'ont tout de suite fait passer un scanner et ils m'ont dit il y a une grosse masse tumorale entre le cœur et les poumons, il faut qu'on vous hospitalise. Et là j'ai décompensé. J'ai été prise en charge, mon corps a lâché et j'ai tout de suite été hospitalisée.
Quand tu dis que ton corps t'a lâché, qu'est-ce qui s'est passé ?
J'ai décompensé, ce qu'on appelle le phénomène de décompensation. C'est que comme j'étais prise en charge, j'ai manqué d'oxygène, mon corps, je pense que j'ai manqué d'oxygène, je pouvais plus me lever, mon corps a totalement tout relâché.
Ouais.
Donc il était pris en charge, je pense qu'il y avait ça. J'en parle à la troisième personne parce qu'à cette époque-là, c'est comme ça que j'en parlais. Et du coup, le soir même, j'étais hospitalisée. Je suis restée à l'hôpital quasiment 9 mois. On m'a fait faire une biopsie. On m'a mis en culture la biopsie pour voir de quel type de cancer j'étais atteinte. J'ai su que c'était un lymphome 10 jours après, donc 10 jours d'angoisse insoutenable où tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangée et si tu vas mourir ou pas, en gros. Voilà, et quand j'ai su que j'avais le type de cancer que j'avais, c'était plutôt une bonne nouvelle pour les cancérologues. C'était assez drôle. Et j'en parle d'ailleurs dans le spectacle. C'était assez maladroit, mais drôle. Et j'ai été suivie par une hématologue qui est une femme formidable, Dr Fieschi, qui a été tout de suite très, très cash avec moi. On a été sur le même mode. Moi, j'avais besoin de connaître les choses de manière assez factuelle. Puis j'ai fonctionné en équipe projet. Hein. J'étais toujours en mode projet, moi. Avec l'équipe médicale pendant 9 mois. Et pendant 9 mois, j'ai lutté, j'ai eu beaucoup de chimiothérapie, et ça a été compliqué et éprouvant. Et en même temps, j'avais toujours le sourire et j'avais besoin de rire, et j'ai découvert dans ce malheur effroyable qu'est le cancer, que je souhaite à personne, même si malheureusement beaucoup de personnes risquent d'être touchées par cette maladie, que mon levier de résilience était et est toujours le rire.
Donc, ouais. Ouais, tu t'es vraiment découverte.
Découverte, j'aime pas dire que j'ai changé après la maladie, mais je dirais que toutes les épreuves de vie que j'ai vécues m'ont permis de devenir ce que je suis vraiment. Mmh. Et pendant la maladie, comme pour l'armée, le burn-out, j'ai appris à identifier les personnes toxiques, à plus écouter mon corps. J'ai vraiment des antennes pour les personnes toxiques et à comprendre ce processus, à m'écouter un peu plus, à dire non. À l'armée, j'ai appris à dire non. J'ai réappris à nouveau à dire non avec le burn-out, parce que j'ai, en tout cas, à me dire oui à moi-même avec le burn-out, parce que je me suis dit j'arrête de travailler, ce qui était juste hyper important pour me prendre du recul et me reconstruire. Avec la maladie, j'ai appris énormément. J'ai beaucoup observé les gens qui m'entouraient. Comme j'étais fatiguée, je pouvais pas toujours être dans l'action. Donc, je regardais beaucoup ce qui m'entourait. J'étais plus contemplative. Donc, j'ai appris ça. J'ai appris sur moi, puisque j'ai appris qu'on pouvait être maladroit et qu'on pouvait à la fois compter sur soi, mais en même temps compter sur les autres. C'est ce que je dis beaucoup en intervention en entreprise. C'est que quoi dire à quelqu'un qui est malade? Déjà, lui dire qu'on sait pas quoi lui dire et s'autoriser à être maladroit et à ce que les malades autorisent l'autre aussi à l'être, même que ce soit la maladie ou n'importe quelle épreuve. En fait, tout le monde peut être maladroit, mais l'important, c'est d'en parler. Et l'humour aide à ça, parce que quand on en parle avec humour, ça libère la parole, donc on peut se permettre de se dire des choses. Donc moi, je l'utilise énormément. Et du coup, les gens l'utilisent avec moi parce qu'ils savent qu'ils peuvent se permettre. Je sais rire de moi, mais je sais rire avec l'autre aussi. Et inversement, du coup, ça autorise beaucoup de choses. Et donc voilà, j'ai appris énormément quand j'étais malade. J'ai appris à gérer mes angoisses parce que j'ai eu ces 10 jours d'attente de résultats qui ont été effroyables. Et j'ai appris des techniques de gestion de l'angoisse et des peurs. J'ai appris à me connecter à l'instant présent parce que j'observais les enfants malades qui étaient juste ultra inspirants et qui m'ont donné envie de juste apprécier le moment présent comme eux le font très 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 bien. Je crois qu'il n'y a pas de personne plus résiliente que les enfants sur Terre. Et ils nous inspirent, enfin moi ils m'inspiraient énormément. Et donc voilà, j'ai appris à compter sur les autres, j'ai appris à demander de l'aide. Je savais pas faire ça, j'ai appris ça. J'ai appris énormément de choses, mais il y a tellement de choses que j'ai apprises. J'ai appris aussi à me respecter et que le temps était sacré et hyper... parce qu'un temps hôpital et un temps vie normale de personnes pas malades, c'est pas du tout le même rapport au temps. Et je sais que j'ai eu des... On m'a posé des lapins quand j'étais à l'hôpital, sauf que moi, j'ai un planning qui était un planning de ministre où je voulais donner son temps à chacun. Tu vois, j'étais en mode... Puis j'avais aussi beaucoup de fatigue, donc il fallait que je me préserve. Et donc, j'ai appris aussi à me séparer de personnes qui ne comprenaient pas ça et qui ne savaient pas communiquer là-dessus et qui m'ont beaucoup blessée. Donc, j'ai appris à me respecter aussi plus. Et voilà, puis ben, j'ai commencé à écrire. Donc, je me suis révélée, en tout cas, dans l'écriture, dans cette écriture et dans ce ton-là d'écriture, parce que j'ai commencé à écrire très petite. Je m'en suis rendue compte après. Mais voilà, j'ai découvert l'écriture et je me suis révélée, en tout cas, dans ce que je suis aujourd'hui. Un des pavés que je suis, même plusieurs pavés que je suis, auteur et humoriste, à ce moment-là.
Et là, à partir de quand tu commences à écrire ? Alors, enfin, juste avec ce nouveau, enfin, avec cette façon-là, avec cet humour et.
Ben en fait, j'écrivais petit des poèmes que j'ai retrouvés récemment, qui me font beaucoup rire et qui étaient mignons déjà. Mais alors écrire comme j'écris aujourd'hui, ça a été quand j'étais en chimiothérapie. En fait, à situation extraordinaire, phrase extraordinaire, réaction extraordinaire pour moi, parce que c'est vrai, je sais pas à qui n'est pas arrivé d'exploser de rire ou d'avoir envie de rire à un enterrement ou de se retrouver dans une situation où il faut pas rire et avoir juste un fou rire nerveux qui arrive parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit, peut-être qu'il y a ça, et parce que quelque part il y a une décharge, il y a quelque chose, le rire il amène quelque chose. Et donc j'ai commencé à écrire parce que je voulais pas oublier, parce que je voyais des choses tellement énormes. On me disait tout ce que je dis dans le spectacle, tout ce que j'écris dans mon livre, c'est vrai. On me disait des choses tellement énormes. Moi, j'explosais de rire à chaque fois. Pour exemple, pour ceux qui liraient pas le livre, c'est, en l'occurrence, c'est dans le complexe du trampoline que j'en parle. C'est, par exemple, une copine qui vient me voir et qui me dit, oh, mais quand on arrive ici, ça fait flipper. On dirait une secte avec tous ses crânes rasés au mètre carré. Et elle commence à me parler du fait qu'elle a perdu 3 kilos, qu'elle en peut plus, qu'elle a pris 3 kilos, pardon, qu'elle en peut plus, qu'il faut qu'elle aille au coiffeur parce que ses cheveux, c'est la cata, alors que moi, j'ai plus un poil sur le caillou et je suis ma vie avec des cernes de 15 mètres de long. Une autre pote quand elle apprend, que je lui annonce que je suis malade, je dis j'ai un cancer, elle me répond, oh non, pas toi, t'étais trop sympa. Et je me dis, en lui disant, mais tu te rends compte que je suis déjà au cimetière, ça veut dire que les gens, il y a des gens qui ont le droit d'être malades et d'autres pas. Enfin, bref, donc tout ça pour dire que j'ai écrit beaucoup et que j'écrivais pour moi d'abord parce que j'avais pas envie d'oublier, ça me faisait marrer pour le raconter à ma famille. Parce que je voulais que ça soit quelque chose comme un témoignage un peu posthume, humoristique, parce qu'avant d'écrire en chimio, j'écrivais pour les mariages, pour les enterrements, on me demandait toujours d'écrire ou je proposais d'écrire. Et donc j'avais un peu cette plume-là, quelque part, reconnue dans ma famille. Et c'est vrai que la maladie a fait que j'ai eu envie d'encore plus écrire et que je chaussais les lunettes de l'humour et qu'il y avait aussi une écriture un peu plus sarcastique et décapante parce que franchement c'était des choses qui étaient aussi décapantes par le fait que tu parles à une malade et qu'on parle cancer et que c'est un sujet qui est encore un peu trop tabou pour moi. Pardon. Et donc, je me suis révélée là-dessus. Et puis finalement, j'ai continué à écrire. Et depuis, j'écris. Là, aujourd'hui, j'écris sur la maternité, sur l'infertilité. Je vais sortir des choses bientôt là-dessus, parce que j'avais besoin d'écrire. Et j'ai découvert que c'était mon levier de résilience, parce que l'écriture, ça permet d'exorciser, de, c'est un exutoire, ça permet de déposer. Tout ce qui est exprimé ne s'imprime un peu moins, donc ça aide beaucoup à élaborer la pensée, à verbaliser les choses, c'est hyper puissant comme outil. Après, chacun ses outils de résilience, mais moi, ça a été mon outil. Il y a plein d'autres formes de résilience, la sculpture, la peinture, le chant, juste se faire plaisir, se mettre la petite crème du matin, c'est aussi un levier de résilience. Enfin, tout est levier de résilience. Et en fait, du coup, voilà. Et j'ai écrit et ma sœur, un jour, j'ai rencontré plusieurs personnes sur mon chemin, ma sœur qui a entendu ce que j'avais écrit et qui était pétée de rire et qui m'a dit « Mais Caro, c'est juste hyper drôle ce que t'as écrit ». Quand j'ai été déclarée en rémission, je lui ai fait lire à ce moment-là en lui disant « Bah tiens, quand j'étais malade, je lui avais pas fait lire, mais je l'avais mis dans un tiroir et je lui avais dit « Tu vois, c'est là, si jamais il y a besoin, ça sera là ». Et parce qu'il y a vraiment eu des moments où c'était très compliqué. Et puis après, quand j'ai été déclarée en rémission, je dis « Qu'est-ce que je fais de ça ?» Ma sœur m'a dit « Mais c'est hyper drôle ». Et puis dans ma reconstruction d'après maladie, il y a eu la tempête physique et après il y a eu la tempête psychologique après maladie. Enfin, après maladie. Quand est-ce que ça s'arrête, l'après? Aujourd'hui, l'infertilité est ma copine, donc je suis pas sûre que ça s'arrête un jour, tout ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai été déclarée en rémission. Et en rémission...
Au bout de combien de temps?
Donc, j'ai arrêté ma dernière chimio à 9 mois de chimio, symboliquement. Et j'ai été déclarée en rémission 1 an et demi après, donc beaucoup plus tard. J'ai dû attendre parce que j'avais le projet de devenir maman. Quand je suis tombée malade, et puis bah, j'ai dû attendre tout ce temps-là pour réessayer. Et puis, on a essayé de faire des PMA avec mon conjoint de l'époque. J'ai fait beaucoup, beaucoup de processus FIV. J'ai eu un don d'ovocytes vraiment grâce à ma belle-sœur qui a donné à la communauté. Et du coup, j'ai reçu un don de la communauté. Et ça n'a jamais fonctionné. Et donc là, je suis tombée vraiment très bas psychologiquement. Ça a été très compliqué puisque c'était mon objectif. D'après maladie. Et puis
c'est un rapport avec le fait que tu aies eu des chimios ou pas du tout?
Un médecin répondrait, il n'y a pas de lien de causalité directe entre vos traitements et ça. Mais fort est à penser que c'est multifactoriel comme le cancer. Hein. Donc c'est pas pour rien qu'avant ma première chimio, on m'a proposé de faire une ponction d'ovocytes, l'urgence que j'ai faite, qui malheureusement m'a pas permis... d'être maman aujourd'hui, mais qui m'a permis d'être tranquille pendant la maladie psychologiquement avec ce projet-là, en me disant, moi, j'ai mes petits fundus au congélo, je reviendrai les chercher après.
Moi, j'ai une de mes amies, elle appelait ça ses petits picards.
Tu vois, ouais. Picard, chacun. Ouais. L'idée, c'était d'être tranquille par rapport à ça, donc je l'ai fait. Et puis après, ça a été un parcours compliqué. Et le fait... qu'on m'annonce que bah là, ça y est, le processus était terminé. Ça a été un vide sans fond pour moi. Je suis tombée, je pense, en dépression à ce moment-là.
Le processus pour avoir un enfant?
Ouais, processus 1, tu as des FIV plus ou moins élaborées, on va dire, pour pas partir dans les termes techniques. Et la deuxième option, c'est on te propose de donner des ovocytes pour continuer ces FIV aussi et pour que peut-être tes ovocytes ne sont pas de bonne qualité, donc on te propose de t'en donner. En tout cas, tu es sur une liste d'attente, mais tout ça, je l'expliquerai dans un livre à venir. Et du coup, finalement, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et quand on a fait le don, j'étais persuadée que ça allait... Enfin, je nourrissais l'espoir profond d'accueillir déjà cet enfant en moi, donc d'être hyper positive en me disant que ça allait marcher. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Et donc, quand j'ai su que ça n'avait pas fonctionné, là, ça a été la descente aux enfers. La vie ne m'aidait plus. Il n'y avait plus rien qui me raccrochait à tout ça. Et puis, mon objectif était pas atteint. Quand je dis objectif, c'était ce qui me tenait à la vie, quoi. Ce qui me tenait à la vie pendant que j'étais malade. Et j'ai été beaucoup inspirée et j'ai beaucoup tenu pour mes neveux et mes nièces parce que je voulais pas leur infliger la perte d'une tata et à ma famille. Mais c'était la revanche sur la vie, quoi, de pouvoir devenir maman après et de pouvoir offrir aussi cette victoire-là à moi, à ma famille, et voilà. Et du coup, ça n'a pas fonctionné. Donc là, j'ai eu une descente profonde, psychologique profonde. On peut pas dire que j'en sois encore sortie, puisque c'est un chemin qui est très très long. Mais il y a une phase très critique de dépression juste après l'annonce. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire?
C'était quand ça?
Ça, c'était juste avant, c'était en 2016. Et du coup, 2016, c'était en 2016, 2 ans avant que je joue la chauve-souris pour la première fois. Et je sais pas quoi faire. Et puis là, il y a encore un cercle vertueux de la vie. Je sais pas qui, ou une petite étoile au-dessus de moi qui fait que je rencontre toujours les bonnes personnes au bon moment. Et parfois, je suis impatiente, donc ça m'éprouve, mais en même temps, je fais confiance à l'univers, comme on dit maintenant, je me connecte vachement à ça. Et en fait, mon ancienne directrice de théâtre, parce que je faisais du théâtre en amateur, m'appelle et me dit « Tiens, Caroline, je viens d'ouvrir mon cabinet d'hypnothérapie, est-ce que ça te dit de tester, je te prends en patient de cobaye ?» Je dis « Bah pourquoi pas, ça me fait un peu peur, allons-y, ça peut m'aider parce que je savais plus quoi faire, ma thérapie m'aidait plus trop, je savais plus trop quel levier utiliser. » Et donc, je vais faire des séances d'hypnose. Et là, révélation, l'hypnose, je lâche prise, enfin. Et je découvre, en fait, grâce à elle et grâce à moi, que, en fait, l'écriture doit revenir au centre de ma vie, que la dernière fois où j'avais été heureuse, c'était quand j'écrivais en chimio. Et du coup, je reprends tous mes écrits et je me dis, bah allez, hop, on continue. Je relis, puis je me marre à distance de tout ça. Je me dis, putain, ouais, c'est drôle quand même. Donc, je le fais lire à ma sœur. C'est à ce moment-là, en fait, que je l'ai fait lire à ma sœur. Et c'est à ce moment-là que ma sœur m'a dit « Mais Caro, c'est super drôle ». Et Valérie Romanoff, me connaissant, me dit « Est-ce que je peux lire ?» Parce que du coup, je lui dis « Bah, j'écris ». Et elle me dit « Je peux lire quand même ». Et elle me dit « Mais Caroline, t'as écrit un spectacle et un livre, en fait, donc il faut que tu en fasses quelque chose ». Ma sœur me pousse, me dit « Caro, il faut que tu en fasses quelque chose, ça peut aider ». Et là, moi, bing, je me dis « Tac, ça peut aider, ok ». Et puis, le hasard de la... Donc, j'écris, je me fais accompagner par un co-auteur, Mathieu Verviche, pour restructurer, me dire bah tiens, je vais écrire, je sais pas ce qu'on va en faire, on verra. Et puis on écrit, puis finalement ça prend la forme d'un seul en scène. Je sais pas si je vais le jouer ou pas, on se pose pas trop la question à ce moment-là, mais on écrit. Et en fait, je rencontre ensuite par le hasard, encore une fois, de la vie. J'arrive chez mon ami d'enfance avec mon texte et je fais ah, Julien, regarde ce que j'ai écrit. Je suis contente de moi, mais j'aimerais que tu me dises ce que t'en penses, parce que Julien, c'est celui avec qui j'ai commencé le théâtre pour la première fois. J'ai fait du théâtre et je l'ai poussé à en faire et on a fait notre première pièce ensemble et c'est un ami de toujours. Et Julien me dit bah pose ça là, je le lirai ce week-end. Et en fait, quand j'arrive chez lui, je suis invitée à un brunch et ce jour-là est présent le directeur qui s'occupe de l'organisation du Congrès international du cancer de Toulouse et qui tombe sur le résumé de la pièce et qui fait mais c'est quoi ce truc-là et qui me demande de le lire. Et finalement, qui me rappelle en me disant « Mais c'est génial, il faut absolument que vous veniez lire quelque chose, lire un extrait. » Je dis « Bah, un extrait, pourquoi pas ?» Je suis hyper heureuse et je me dis « Bah tiens. » Il me dit « Ça peut vraiment aider. » Paf, je me dis « Encore aider. » Et puis finalement, il m'appelle 15 jours après et il me dit « Mais c'est vous qui avez écrit ça ?» Et je dis « Oui. » Et il me dit « Mais je pense qu'il faut que vous le jouiez, ce truc-là. » Je vous lance le défi de le jouer. Et du coup, ben j'avais, en tout et pour tout, je crois 3 mois. Et donc, je bosse comme une malade. Et puis bah là, du coup, ça m'occupe et je pense que ça me fait du bien.
Parce qu'à ce moment-là, au niveau professionnel, t'es toujours en arrêt maladie.
Ouais, je suis en arrêt tout le temps. Je suis en arrêt encore parce que je me remets des traitements. Et c'est ce qui m'a laissé ce temps-là aussi pour pouvoir écrire, en fait, beaucoup. Et ce qui a contribué à ma reconstruction, clairement. Et donc, je vais jouer. Cette pièce, donc je reprends le travail au moment où je vais jouer en fait, parce que je me rappelle que j'en parlais avec des collègues. Donc juste avant de jouer, je reprends le travail et je vais jouer. Et là, bam, ça a été la révélation parce que je monte sur scène avec une peur incroyable, mais j'avais plus peur d'affronter mes peurs. Maintenant, je dirais même quelque chose que je trouve très beau. Kada Abdelli m'a dit quand je l'ai interviewé pour la BD Résilience et vous que j'ai sorti là, c'est que lui, quand il a peur, il y va. Parce qu'il sait que derrière, il y a quelque chose qui l'attend. Et du coup, je me rends compte a posteriori, maintenant, quand j'en parle, que en fait, j'avais peur, mais j'y allais. Parce que je me disais, finalement, je suis capable. Mais je savais pas que ça allait m'apporter un cadeau, en fait. J'avais pas cette conscience-là. Et vraiment, dans la peur, il y a quelque chose de vertueux, de pouvoir se confronter à sa peur et aller chercher le besoin derrière ou le cadeau caché, quoi, qu'il peut y avoir. Et donc, du coup, je monte sur scène, comme si je sautais en parachute. Et puis, je me reconnecte à ce moment-là à ma petite fille intérieure en me disant « amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi ». J'avais envie, en fait, d'amuser les gens. mais avec une peur effroyable, bah, déjà d'être seule sur scène, parce que ma première, je l'ai faite devant 500 personnes quand même.
Du coup, la première, c'était où? C'était au congrès
Ouais. J'ai été invitée au congrès, je dis, hop, j'y vais. J'ai levé le défi. Et quand on me dit, tu n'y arriveras pas, bon, bah, j'ai tendance à dire, bah,
je vais vous montrer, moi.
Et donc, je joue la première, et là, je me prends des vagues de rire, des fous rires. Je découvre que je peux improviser sur scène. Je découvre que j'ai une relation avec le public qui se met en place et que je m'amuse comme une folle et que en même temps que j'ai beaucoup travaillé. Donc j'ai ce côté-là aussi très créative mais très rigoureuse. Donc j'ai beaucoup travaillé mon texte, ce qui fait que je peux me permettre de finalement d'improviser et d'être vraiment connectée au public. Et là, je me prends des salves, une énergie de dingue et je prends toute la place et je m'amuse comme une folle et je trouve ma place en fait dans tout ce qui s'est passé en me disant il m'est arrivé tout ça. Mais c'est pas vain. C'est quelque chose qui est utile et je découvre en fait que ce que j'ai vécu peut être utile à d'autres. Et là il y a ça prend une autre dimension en fait.
Ah, il y a un vrai sens.
Il y a un vrai sens à ce que j'ai écrit, à ce que j'ai pas vécu parce que je suis encore pas tout à fait OK avec ça. Hein. Bon, il faut qu'on parle du karma et tout ça, hein. Je suis en train de me documenter là-dessus, je suis pas OK avec tout, hein, on va dire. Mais en tout cas, ça donne du sens dans le sens où je me dis, je suis utile de ce que j'ai vécu et j'en fais quelque chose. Et donc là, je me rends compte que j'ai des témoignages, plein de témoignages de gens en pied de scène qui viennent à la fin en me disant, mais waouh, merci de prendre cette parole-là, de passer ce message, merci de m'avoir fait rire. Des gens qui sont malades, des gens qui sont pas malades, des gens qui sont condamnés et qui me disent, je vais voir les traitements différemment, je vais donner un petit prénom à mon porte-poche à perfusion, parce que moi, j'ai un pote sur scène, c'est R2D2, mon porte-poche à perfusion. Et du coup, voilà, et de rire. Le rire, c'est... Je me suis rendu compte que ça fédérait déjà, parce que rire ensemble, c'est juste dingue. Dans une salle, entendre tout le monde rire ensemble et entendre l'utilité que ça peut avoir, ce que ça donne comme énergie, ce que ça apporte. Et moi, perso, je me suis rendu compte de l'utilité individuelle et collective de tout ça. Et du coup, j'ai appris que le rire et cette pièce permettaient de fédérer, de libérer la parole, parce que du coup, les gens à la fin venaient me voir et avaient envie de me raconter leur histoire, permettaient de se ressourcer, parce qu'on oublie, parce qu'il y a une forme de respiration d'oxygène avec le rire, et permettaient de dédramatiser, d'aborder des sujets, parce que je suis très cash sur scène, je mets les pieds dans le plat. Et j'ai des « Oh, oh là là, elle a dit ça !» Mais en même temps, des rires juste après, parce que on est OK pour en parler, parce qu'il faut en parler, parce que si on fait « Oh, il faut peut-être en parler, parfois. » Ça rime avec ça. Et donc voilà, j'ai découvert que c'était un outil de sensibilisation, d'accompagnement. Et à partir de là, j'ai commencé à jouer. Et puis ensuite... j'ai été appelée, le spectacle fonctionne que de bouche à oreille aujourd'hui, même s'il cherche son producteur, on va pas se le cacher, parce qu'il a vraiment une vocation, il est vraiment, j'aimerais que cette pièce, que la chauve-souris prenne son envol, parce qu'elle a vraiment, vraiment une utilité et une place dans le monde du spectacle. Donc je me suis mis en leitmotiv de soutenir, de sensibiliser, de briser les tabous, et aussi de démocratiser la prise de parole sur ce sujet-là, parce que voilà, au théâtre, on parle de plein de choses graves, mais alors le cancer, c'est quelque chose de contagieux là-dedans. Et je pense que c'est vraiment important de le faire. Donc on me donne un peu cette mission-là, puisque les gens à chaque fois, à la fin du spectacle, me disent quand ils ont été malades ou qu'ils sont malades, merci de nous représenter, merci. Et puis il faut y aller un peu plus, quoi. Faut pas que ce soit que la minute bonne conscience ou le mois rose bonne conscience de l'année. Ça me qu'on en parle toute l'année. Et ce qui est hyper positif, c'est que je suis appelée à jouer de plus en plus toute l'année. Parce que les gens commencent à reconnaître la pièce comme une autre, en fait. Et ça, c'est hyper, hyper important et hyper positif pour pouvoir inciter au dépistage aussi. Hein. Ça contribue à ça. Donc voilà, je joue la pièce depuis 2018, un peu partout en France, pour des villes, des associations, des entreprises, pour parler de la maladie, du handicap invisible qu'elle peut représenter. Et de plus en plus pour des théâtres. Et puis voilà, donc pour des centres hospitaliers aussi, auprès de soignants, là je suis sollicitée, je suis hyper contente de ça aussi, pour représenter la parole patient. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup et qui apporte, donc je suis très contente de ça.
Ouais. Et à partir de quand tu te dis que tu as envie de reprendre tes études pour être psychopraticienne?
Eh bien, j'avais en fait passé sur mon temps libre, évidemment, parce que tu sais, j'étais pas chargée déjà, je me rajoutais de la charge à l'époque. Quand j'ai repris mes études en promo cadre, j'avais commencé à repasser en candidat libre une licence en psycho. Et donc, j'avais un peu ça en poche, on va dire l'équivalent L3, licence 3. Et ça me plaisait pas trop, j'avais arrêté parce que je trouvais qu'il y avait pas assez de pragmatisme dans les... Enfin, selon moi, c'était trop universitaire, donc c'était intéressant, mais bon, voilà. Et en fait, j'ai repris mes études en 2000... J'ai repris mes études en moment où j'ai repris le travail, en fait. Donc, en 2016.
Donc, après ton cancer?
Ouais, après mon cancer. J'ai décidé de reprendre mes études et j'ai cherché quelque chose qui me correspondait plus et qui était expérientiel. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études en psychosomatothérapie dans une école dans laquelle on expérimente absolument tous les outils qu'on propose aux patients et où il y a un vrai cheminement. Et c'est quelque chose qui est multiréférentiel, donc qui me correspond bien parce qu'on va chercher l'outil qui va permettre d'accompagner le patient. Donc, il y a de la schématérapie, du gestalt, il peut y avoir aussi de la respiration en pleine conscience, il peut y avoir la méditation, il peut y avoir voilà, je me suis formée à l'hypnose niveau 1 aussi pour pouvoir aussi accompagner en hypnose et avoir voilà tout un tas d'outils, plus la verbalisation évidemment, le lien thérapeutique, mais tout un tas d'outils qui permettent justement d'accompagner de manière personnalisée le patient. Et donc voilà, j'ai décidé de me reconvertir, mais un pas après l'autre, parce que ben 2017-2018 je commence à jouer. En même temps, j'ai le travail que je reprends et en même temps, je fais mes études. Et donc, je me lance vraiment en 2019. J'ouvre mon cabinet vraiment en 2019, au moment où je réponds à la question de « je vais me reconvertir et je vais expliquer à l'entreprise que j'ai besoin d'être accompagnée ». Donc, aujourd'hui, je suis très accompagnée. Donc, j'ai vraiment un planning aménagé qui me permet de gérer mon parcours externe et d'aller dans la reconversion pour développer mes activités de psychosomatothérapeute, de conférencière,
d'auteur et humoriste, ouais.
Et voilà, et humoriste.
Donc là, aujourd'hui, t'es à quel rythme dans l'entreprise?
Je suis à un rythme qui est avec une saisonnalité, parce que okay. Je suis très très sollicitée au mois d'octobre, novembre pour la pièce. Donc je gère en fait la charge et les missions en fonction de ça. Donc on va dire que je suis dans l'entreprise, c'est aléatoire, mais je peux être 2 jours, une journée, et puis parfois pas là pendant un mois.
Ok.
Voilà,
c'est ok.
C'est ok parce que voilà. Puis en plus, comme je suis une ancienne burn-outée, j'ai un stock de compte épargne temps de ouf. Et donc du coup, je gère mes activités comme ça, quoi. Je suis multi-casquette.
Comment t'écoutes ton intuition?
Alors, j'ai appris à l'écouter. De plus en plus ces dernières années. Comment je l'écoute? Je la ressens surtout, moi, l'intuition. Avant, j'écoutais mes pensées. Donc, je suis passée du mode mental, que j'ai toujours un petit peu, mais à plus de place aux émotions et aux ressentis. Donc, c'est souvent des images et un ressenti pour moi. Voilà, c'est comme ça que je l'écoute. J'invite les gens à développer leur intuition. Moi, je suis pas encore... au top de ma pratique, mais j'apprends à le faire petit à petit, parce que souvent on associe ça à la petite voix intérieure. Ça peut, mais ça peut ne pas être ça non plus. Donc bref, il faut se documenter là-dessus. Vous verrez que c'est pas tout à fait la même chose, mais si on l'associe à ça, il y a vous savez, c'est comme quand vous rencontrez un mec et que dès les premiers moments vous sentez qu'il y a un truc. Tu sais, on sent qu'il y a le truc. Je parle de ça parce que souvent les filles ou les hommes peuvent s'identifier à ça. On rencontre, et puis on s'emballe un peu, puis on fait ce petit truc-là, ça coince un peu. Alors c'est en lien avec les valeurs souvent, mais du coup, on laisse passer. Mais sauf qu'en fait, c'est souvent la raison pour laquelle on va se séparer à un moment donné. Et souvent, associé à ça, il y a le petit truc de non, c'est pas ok pour moi. Ou quand on rentre dans une pièce et qu'on sent qu'on n'est pas, c'est pas ok, qu'il y a une ambiance, il y a une énergie aussi, une question d'énergie. Donc, moi, je découvre ça là en ce moment, et j'invite tout à chacun en tout cas à écouter ce qu'il ressent. Ça, c'est pour moi, en tout cas, le corps parle, les émotions parlent et la pensée parle. Souvent, les bons conseillers sont les émotions et le corps, je trouve, aujourd'hui.
Ah, Je confirme.
Il faut pouvoir aussi élaborer sa pensée et avoir un schéma de pensée qui est équilibré. Mais en tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, moi, j'apprends personnellement, en tout cas, à vraiment plus écouter mes émotions et mon ressenti corporel. Et souvent, ils sont très, très bons conseillers. Quand on dit oui, vous savez, quand on dit oui et qu'en fait, on a envie de dire non, souvent, on dit, la bouche dit oui, la tête dit oui, et le corps, et les émotions, elles disent un non, mais elles n'ont pas réussi à le faire passer le message pour qu'on puisse, ou on n'a pas réussi à les entendre plutôt. C'est plutôt ça.
Je suis complètement d'accord avec toi. Clairement, parfois, tu te dis, allez, la raison te dit que ça serait cool, mais qu'en fait, ton corps, il te crie, mais non. Et c'est dur à accepter, mais à un moment, tu te rends compte que finalement, avec l'expérience, que bah, le fait de, ouais, d'être dans sa bonne voie, bah, ça change tout, en fait. Tu perds pas d'énergie avec des personnes et...
C'est ça, exactement. Mm. Et parfois, la tête et les émotions sont pas effectivement d'accord l'une avec l'autre. Pour exemple, moi, récemment, c'est les parcours PMA qu'on a souhaité reprendre un peu. J'en ai pas trop parlé, mais j'en parlerai quand je m'en sentirai prête à en parler en détail. Mais on a repris un parcours PMA avec mon mari actuel, qui est un homme merveilleux avec lequel je rêverais d'être maman. Et en fait, c'est mon corps qui m'a dit stop. C'est parce que j'ai réussi, quand je parlais avec la gynécologue en entretien, quand elle m'a dit « alors, donc on repart !» Et on venait de refaire un parcours en insémination. Et j'ai absolument pas parlé. Mon corps est parti en arrière sur la chaise. Je l'ai regardé et en sortant du cabinet, je me suis dit, mais je savais plus. Et en fait, je me suis dit, mais c'est mon corps qui m'a dit non. En fait, non, je veux plus. Il veut plus. Je ne veux plus. On ne veut plus. Donc, voilà. Mais c'est ce que j'explique aussi. Parce que j'aimerais bien en parler de la BD, la résilience et vous. La capacité à écouter son corps, à écouter. Ces émotions, c'est vraiment, vraiment un levier et une compétence de vie qui est primordiale, je trouve.
Comment tu célèbres tes réussites ?
Alors, comment je célèbre mes réussites ? En général, c'est d'abord mon mari qui les célèbre, qui me dit « Ah, mais regarde comme tu peux être fière de toi ». Donc, souvent, ça me pousse... quelques heures après à me dire, mais Caro, sois fière de toi, regarde. Je regarde derrière et je me dis, ouais, il y a quand même un beau chemin de vie. Et je les célèbre quand je reçois un témoignage de quelqu'un qui me dit, ça m'a aidé. Comme là, avant-hier, j'ai reçu le témoignage d'une lectrice qui donc a découvert la BD Résilience et vous et qui m'a dit, merci, je suis dans tel parcours de vie, je passe une épreuve effroyable et en fait, bah, ça m'aide beaucoup, merci. Donc là, moi, quand on me dit merci, je me dis merci aussi. On va dire que c'est la gratitude des autres et pour soi ensuite. C'est comme ça que je célèbre. Et puis, de temps en temps aussi, petite bouteille de champ, en mode pompe et l'up avec les amis, évidemment. Ouais.
À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ?
Pourquoi pas moi ? Le moment. Il y a plein de moments où je me suis dit pourquoi pas moi. Il y en a plein. Quand je suis montée sur scène, quand Flammarion m'a proposé d'écrire mon premier livre, Le complexe du trampoline, je me suis dit mais. En fait, ma première réaction, ça a été les gens s'en fichent de mon histoire. Qu'est-ce que je vais leur raconter, mon histoire ? Et puis finalement, bah, je dis non, je monte sur scène, je joue la pièce, pourquoi pas aller plus loin ? C'est vrai que les gens me posaient plein de questions, bah, je me dis, bon, je vais écrire toujours pareil pour les autres. Et puis là, en écrivant par contre Le complexe du trampoline, j'ai compris que c'était utile pour moi aussi. C'était l'inverse sur ce coup-là. Et puis bah, pour la BD Résilience et vous, j'ai d'abord, à la fin de l'écriture du complexe du trampoline, je me suis dit, tiens, le sujet de la résilience, on me nommait résiliente multirécidivie, je me suis demandé ce que c'était ce titre. J'ai trouvé ça drôle et en même temps, j'ai trouvé ça assez juste. Et du coup, je me suis documentée, passionnée. Et puis, j'ai adoré le sujet. Je me suis dit, ah, j'ai compris plein de choses. Ça m'a mis en confiance avec moi-même. Et je me suis dit, je vais redonner aux autres. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et pourquoi je n'écrirais pas un livre sur ce sujet-là pour permettre aux gens de comprendre ce que j'ai compris de manière plus vulgarisée, plus accessible? Ces dernières années m'ont permis de comprendre que j'avais une mission de vie et puis je me légitimise à force de projets, à force de bébés, parce que je les vis vraiment comme des bébés, je me légitimise dans mon rôle de résiliente multirécidiviste qui transmet son expérience, qui transmet ses leçons de vie, et puis qui transmet en tant que maintenant psychopraticienne ce qu'elle trouve utile pour les autres. Et donc, autant dans le complexe du trampoline, je parle de mon histoire personnelle et mes leçons de vie, autant dans la BD Résilience et vous, j'ai interviewé des personnes, je vais au-delà de mon histoire, c'est aussi un levier de résilience, hein, aller au-delà de son histoire et redonner ce qu'on a pu recevoir. Je ne sais pas si tu le disais, mais c'est ce que j'ai peut-être entendu dans ce que tu as posé là, s'inspirer. Moi, je me suis beaucoup inspirée des autres, de mes neveux, de Nelson Mandela, de résilience, sans savoir que c'était ça dont il s'agissait à l'époque. De petites choses de la vie qui ont fait que ça m'a aidée. Et donc, du coup, j'ai voulu redonner ça en livrant des témoignages de personnes résilientes, parce qu'il y a des gens qui s'identifient et du coup, ça leur donne des exemples de résilience, ça leur donne l'autorisation de se dire « pourquoi pas moi ?» Le fait de s'autoriser à se dire « je suis résilient et pourquoi je ne regarderai pas les talents que j'ai, les compétences et les qualités et les capacités, et pourquoi je ne les développerai pas, et pourquoi je ne m'offrirai pas ça, et pourquoi je ne l'offrirai pas ?» Enfin, il y a des gens aussi, j'en parle parce que c'est vraiment là d'actualité aujourd'hui, une personne qui m'a écrit ce matin en me disant « ah ben je ne le prends pas pour moi, mais je vais l'offrir, je parle de la BD Résilience et vous, à quelqu'un qui en a besoin. » Je pense qu'on est tous d'inspiration les uns pour les autres, et on peut tous s'aider les uns et les autres, et qu'en ça, c'est puissant de pouvoir s'autoriser à, comme tu disais tout à l'heure, à se dire merci, à regarder la petite lumière qu'on a en soi, et surtout à la partager. Enfin, moi, c'est un peu ça ma mission que je vois aujourd'hui dans ce que je fais, sans vouloir me donner de m'attribuer de qualité quelconque, mais en tout cas, je sais que parce que le public me le dit et parce que les lecteurs me le disent, que ça leur apporte. Donc, tant que ça apporte, je continue. Et on doit s'autoriser, je pense, tous, parce qu'on a tous une petite lumière intérieure, une petite graine en soi. Et ce qui est génial, c'est qu'en ça, comme c'est connecté à l'amour, c'est pas quelque chose qu'on divise et qu'on partage, c'est quelque chose qui se multiplie. Et du coup, moi, à défaut de pouvoir avoir un enfant aujourd'hui, je transmets à ma manière, donc je me donne à moi et je donne aux autres en même temps, quoi. C'est un peu ça mon leitmotiv. Donc le pourquoi pas moi, je le trouve assez puissant et à partager le plus possible.
C'est quoi pour toi la réussite ?
Je fais la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie déjà. J'ai compris ça quand j'ai fait mon burn-out. La réussite, c'est se sentir complet et en phase avec ses valeurs dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait et réaliser ce qu'on se souhaite, en fait. C'est surtout ça, pour moi, la réussite. Et mon mari est très inspirant pour ça, parce que moi, j'ai toujours, et parce que j'ai encore des choses à apprendre, envie toujours de projets, j'ai toujours envie de... Moi, je suis dans la créativité, c'est normal, mais j'ai toujours l'impression, et je travaille là-dessus, hein, je suis toujours... accompagné, parce que je trouve qu'on pourrait être accompagné toute sa vie par un thérapeute, sur le et c'est quoi l'étape d'après, qu'est-ce que je fais après. Donc je sais que je cours après un vide qui est lié à la maternité, et je m'inspire souvent pour me calmer dans ma proactivité et dans mon hyperactivité en regardant mon mari très régulièrement, quand j'ai besoin de me recentrer, je lui dis mon Yuen, comment tu te sens, comment t'es heureux, et on se demande souvent ça tous les deux, et il me dit ben oui, moi je suis heureux. On est ensemble, on est en bonne santé, on est bien. J'ai un métier qui me plaît. Voilà, c'est le bonheur simple, quoi. Et du coup, ça me recentre vachement et ça me repose, parce que moi j'ai tendance, et là je suis pas inspirante là-dessus, à toujours être dans l'hyperactivité. Et donc pour moi la réussite, voilà, c'est ce que chacun peut souhaiter et c'est simple finalement a priori et accessible.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Caroline de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ?
J'écris à ma petite fille intérieure dans un de mes livres, donc Le complexe du trampoline. Elle m'a gueulé dessus, elle a été très mécontente quand même pendant un certain temps, parce que je ne l'écoutais pas, dans ses blessures et dans ce qu'elle avait à exprimer. Aujourd'hui, non, je pense qu'elle serait... extrêmement fière de moi et qu'elle me dirait « cultive encore plus l'amusement ». Je pense que c'est un des leviers que je cultive de plus en plus dans ce que je fais. L'amusement, la légèreté. Quoi.
On dit que quand dans la vie, on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements ?
Alors là, moi, ça résonne sur la... C'est lâcher pour moi, c'est lâcher. Alors ça peut être lâcher, ne pas vouloir sauver l'autre, tu vois, ce côté un peu... ne pas vouloir être dans l'entraide, dans l'aide absolue, mais dans une aide accueillie et souhaitée par l'autre. Mais ça, c'est pas au présent pour moi, c'est au passé. Donc, c'est lâcher, en fait, tous les schémas et les systèmes dans lesquels on peut être et se reconnecter à ses besoins et à son instant présent et à ce qu'on souhaite s'apporter à soi d'abord et ensuite aux autres. Et je pense que c'est... C'est penser ses blessures, c'est lâcher. Enfin, il y a des choses qu'on lâche un peu avec le système du chacal et de la girafe, là.
C'est là. Ah, je connais pas.
En fait, c'est dans la communication non violente. Et on a tous un chacal et une girafe en nous. Donc, le chacal, il va être dans le jugement. La girafe, elle va être dans la bienveillance, plutôt. Et ça va être, arrêter de se juger. Ça va être lâcher en soi ce qui est toxique pour soi. Mais ça va être aussi lâcher, des choses toxiques, de l'extérieur, donc c'est lié à la fois à nous-mêmes et à l'environnement. Enfin, moi, je le ressens comme ça, en fait.
Ça a été quoi pour toi la plus grande difficulté à gérer dans ta vie ? Et comment tu l'as gérée ?
La plus grande difficulté pour moi à gérer, mais il y en a eu plusieurs parce que j'ai un cours de vie. Je vais en choisir une. Allez, je vais faire l'élection de la plus grande difficulté de la journée. c'est l'infertilité aujourd'hui, clairement. Hyper difficile à gérer parce que c'est quelque chose qui nous amène à, quand on est en parcours, à devoir faire des chemins pour y croire et à devoir revenir en arrière après parce que l'espoir est déchu et donc ça fonctionne pas. Et de renourrir l'espoir à la prochaine tentative et hop, on peut plus. Ça marche pas. Et on renourrit et on peut pas. Parce qu'on est déjà dans, moi, je me devais d'être déjà dans l'accueil de cet enfant qui n'était pas là. Il fallait que je sois positive, fallait que je sois accueillante, fallait que je sois zen, fallait que je sois. Donc voilà, très compliqué. Et maintenant, je suis dans un chemin, à la fois de questionnement et en même temps d'acceptation, donc de deuil, de quelque chose que je ne veux pas. Donc faire le deuil. C'est un deuil, c'est compliqué, mais ça va être difficile ce que je vais dire peut-être, mais quand la personne n'est plus, elle n'est plus. On fait un deuil, on n'a pas le choix. Quand on est dans un chemin où on se dit, peut-être que, mais...
Ouais, t'as encore un espoir possible.
Tu sais pas, et du coup, y a beaucoup de culpabilité dans tout ça, et c'est extrêmement compliqué de faire ce chemin, et de se dire peut-être que maintenant, il est temps d'accepter que je ne serai pas mère. Et en même temps, de se dire, je vais devoir vivre avec une blessure béante qui sera tout le temps là. Est-ce qu'elle se pense, cette blessure-là ? On en reparlera lors de mon prochain livre. Mais sincèrement, c'est pas simple. Donc ça a été la plus grosse difficulté de ma vie. Et d'ailleurs, que j'en parle un peu, mais bref. Le livre « Résilience et vous » que j'ai écrit m'a aidé à comprendre où j'en étais sur mon processus par rapport à ce chemin de vie, parce que je pense qu'on a tous plusieurs épreuves potentiellement dans une vie, et je me suis rendu compte que j'avais comme des chemins de résilience et des processus de résilience qui étaient en fait pas au même niveau les uns les autres. Pour le cancer, je suis un niveau, pour la maternité, je suis un autre niveau, et ça m'a aidé en fait, d'écrire ce livre m'a aidé à moi-même me dire où t'en es dans ton processus, et je pense que je suis dans la tristesse pour l'instant, avec encore de la colère, et je commence l'acceptation, mais voilà, c'est pas chronologique, et c'est important pour ceux qui le liraient, ce livre, de se dire que c'est vraiment pas chronologique et que chacun a son processus et que même si les étapes se ressemblent, il est très singulier et personnel. Et ça m'a aidé notamment à me rendre compte de quel levier j'avais mis en œuvre à nouveau pour ça. Et, euh, et, euh, et voilà, de mes leviers de résilience, de ma forme de résilience, de mon profil de résiliente, et que mon Dieu, oui, j'avais une personnalité résiliente, mais que bah voilà, il faut quand même faire ce chemin, et que c'est un chemin humain, et c'est pas parce qu'on est expert du sujet qu'on le vit de manière plus rapide que les autres, clairement. Mmh.
De quoi t'es la plus fière aujourd'hui ?
Je suis très fière de ce que je suis devenue, et que toutes mes épreuves m'ont permis. Je suis fière du fait que mes épreuves m'ont permis de devenir ce que je suis vraiment, authentique, alignée, et de pouvoir transmettre. Enfin, c'est génial. Je trouve que je suis hyper fière de ça, et je suis très fière d'avoir une personne qui passe le pas de mon cabinet, le pas de porte de mon cabinet, et que je vois. Voilà, avec ça y est, l'éclair de je me suis trouvée, je sais où je vais, et les petites victoires, quoi. Moi, je suis hyper fière de mes victoires et de celles des gens que j'accompagne, et je suis très fière de mon mari, et de tous les gens qui m'entourent et qui sont hyper bienveillants, et qui sont voilà, je suis fière, enfin, en général, des gens qui sont humains et bienveillants, quoi, on va dire.
Petit éternuement, donc je vous ai coupé le son. qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un que tu croises qui ne connaît pas du tout ton histoire, mais qui voit qu'aujourd'hui, voilà, tu as multicasquette, tu as écrit deux super livres, tu es humoriste, et qui te dirait tu n'en es là que grâce à de la chance?
Mais la chance, mais ça m'agace, en fait. Ah, c'est un concept. Ah, mais ça, c'est drôle, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent « Ah non, mais Caro, ce que je dis sur scène, je m'amuse de ça dans La Chauve-Souris. » Alors, La Chauve-Souris avec un T, les gars, si vous voulez aller voir la bande-annonce, hein, parce que c'est pas La Chauve-Souris avec un S, hein, c'est avec un petit souris, pour ceux qui n'auraient pas compris le jeu de mots. En fait, il y a une nénette, à la fin du spectacle, j'en parle, qui me fait « Non, mais avec ce que tu as vécu, tu dois être hyper heureuse et hyper sereine. » Parce que tu connais la vraie valeur de la vie. Alors, soit on me dit ça, donc là, je réponds lol, en fait, parce que quand la nénette me dit ça, en l'occurrence, je suis un peu au bout de ma vie et je suis en dépression, quoi, donc pas du tout. Mais c'est pas tout à fait faux, parce que j'ai appris beaucoup. Et en même temps, la deuxième chose qu'on me dit, c'est soit, oh là là, t'as pas eu de chance. Ah bah merci, vas-y, rajoute-moi un pavé sur la tête, histoire que je m'enfonce encore plus. Ou alors, on me dit, oh, t'as eu de la chance quand même, avec tout ce que t'as vécu. Et ben alors là, moi les gars, je vais m'y mettre dans pas longtemps. Je vais commencer à explorer le karma, la chance. Va falloir qu'on en discute deux minutes. Pourquoi ? Parce que j'aime pas quand on me dit que j'ai eu de la chance ou que j'ai pas eu de chance. J'ai eu la vie que j'ai eue. Ma vie, c'est celle-là. Je l'ai, je l'accepte, je l'ai accueillie avec. Toutes les émotions qu'on peut vivre face aux épreuves qu'on peut vivre. J'ai appris beaucoup de choses, mais je n'ai pas eu de chance. Je pense que je suis ce que je suis devenue grâce à mes épreuves, et que mon prisme de lecture a joué énormément. C'est-à-dire que, à la fois, j'ai pris les choses avec humour, et grâce à l'humour, j'ai pu avoir un peu de recul sur ce qui se passait, et j'ai pu traverser les épreuves avec un peu plus de légèreté et de ressources, et en même temps j'ai su à chaque fois voir le côté positif de la situation, et ça c'est parce que moi je l'ai voulu, et qu'à un moment donné il y a une question d'action et de choix, hein, dans la résilience,
et bah, donc, soit on est acteur, soit on est victime,
ça peut être une posture, ouais, tout à fait. Mmh. Il y a une question de posture, et donc du coup pour moi je dis pas qu'il faut que les gens le soient, mais je leur propose de peut-être voir les choses autrement, notamment dans cette BD, parce que je veux pouvoir leur expliquer que oui, c'est une question de posture, c'est est-ce que je vois le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, est-ce que j'ai plutôt de l'humour, est-ce que j'ai tendance à accepter ce qui m'arrive, à faire le choix entre ce que je dois accepter, que je ne peux pas changer, et ce que je peux changer, donc là, l'endroit où je peux devenir acteur de moi-même. Il y a une question, oui, il y a des gens qui sont victimes de leur vie, et il y a des gens qui vont se dire... Et heureusement, c'est pas une fois en soi. On peut changer de posture, heureusement, mais c'est un travail, c'est un cheminement. Et en effet, oui, je pense que j'ai vu les choses avec positivisme, avec optimisme, Je suis quelqu'un qui aime se lancer des défis. Je me suis dit, il n'y a pas moyen, on y va. Je lâche pas. J'ai fait preuve de persévérance, d'endurance. J'ai su demander de l'aide quand il était nécessaire de le faire. Et puis, et oui, il y a un prisme de lecture de la vie qui fait qu'à un moment donné, on voit les choses et surtout derrière, et c'est là où arrive la phase ascendante de la résilience, c'est qu'on arrive à se dire, mais qu'est-ce que je fais de ça? C'est-à-dire que j'ai une épreuve, ok, ça m'est arrivé. Quand on arrive à essayer d'en tirer quelque chose pour soi, en se disant, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Et quand après, l'étape d'après, on le fait aussi, on le veut pas, mais on peut se dire aussi, qu'est-ce que j'en fais après pour les autres? Et ben, déjà, se dire, qu'est-ce que j'en fais pour moi? Qu'est-ce que j'en ai appris? À chaque épreuve, j'ai toujours essayé de me dire, c'est pas un échec, c'est une leçon de vie. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi? Et ce qui fait que j'ai toujours grandi. Donc aujourd'hui, effectivement, ben, j'ai grandi de tout ça. Donc j'ai hyper grandi. Donc je suis spirituellement, je me ressens hyper connectée à moi-même, hyper connectée au monde et hyper grande parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu. Donc oui, j'ai eu des galères. Ça, c'est le côté pas chouette. Mais en même temps, à côté, j'ai récupéré énormément de leçons de vie, énormément de...
C'est ce qu'on appelle les cadeaux mal emballés de la vie.
Ouais, c'est des cadeaux cachés. J'appelle ça les cadeaux cachés, effectivement. Et ça, en ça, on peut tous, et on a tous des capacités de résilience, on a tous des facultés, on a tous... je défie quiconque de lire, justement, la BD et de ne pas découvrir qu'il n'a pas des capacités ou des talents. J'appelle ça des talents de résilience. Après, il y a des gens qui sont plus prédisposés, d'autres qui sont moins prédisposés. Mais le côté hyper positif, c'est qu'il y a une part d'inné, mais il y a une part d'acquis. Donc, on peut apprendre. Et on peut découvrir ça. Et donc oui, aujourd'hui, la chance, non, c'est pas. Il y a facteur chance. Je sais pas pourquoi ce mot-là. Aujourd'hui, je l'aime pas. Donc, il va falloir que j'aille
à creuser. Voilà. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Il y en a deux. Je peux en donner deux?
T'as le droit.
Le premier, c'est un qui m'a permis de tout de suite me mettre à... qui a déclenché le fait que j'ai ri en maladie. C'est une phrase qui ne veut absolument rien dire. Qui s'appelle... Quand t'es malade, t'es sur ton lit d'hôpital et la personne te dit « Le doute n'apporte que lui-même. »
Le doute
n'apporte que lui-même. Donc là, tu te dis... La première réflexion, c'est « Ça veut rien dire. » Et après, tu dis, attends, le doute n'apporte que lui-même. Si je doute, je doute. Donc, autant y croire. Et d'abord, j'ai ri. Et puis finalement, parce que je comprenais pas la phrase, je me dis, mais c'est quoi cette phrase qui veut rien dire? Comme une autre phrase qu'on m'a dite après pour rire, nul n'est à chacun qui l'écoute. Enfin, des phrases qui te semblent un peu absurdes. Donc, cette phrase-là, en l'occurrence, le doute n'apporte que lui-même, m'a permis, moi, de me dire, bah, au final, si je doute, je nourris soit le doute ou je nourris soit la croyance. Et du coup, je suis allée dans la croyance. Ça m'a beaucoup aidée. Ça, c'est la petite phrase qui a déclenché mes écrits parce qu'elle m'a fait rire et du coup, voilà. Mais en même temps, elle était vraiment engorgée de sens. Ce qu'on m'a dit, tu peux pas choisir. C'est une phrase que j'ai lue de Viktor Frankl. Mais je vais pas la dire exactement comme il l'a dit, mais vous tapez sur Google, vous l'avez. C'est, en gros, tu ne peux pas choisir forcément les épreuves que tu vis. Donc ça, c'est en lien avec la capacité à accepter ce qu'on peut pas changer. Mais tu peux agir sur la manière de les appréhender. Et moi, je rajoute toujours en bas, quand je dédicace sur certains, avec certaines personnes que je ressens dans ce truc-là, pourquoi pas en riant? Parce que je trouve que c'est hyper puissant. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc, ces deux phrases-là m'ont beaucoup aidée. Et le texte de Nelson Mandela sur la peur et la lumière, c'est quelque chose qui m'a accompagnée depuis l'âge de 19 ans. Ça m'a accompagnée pendant la maladie. Et la dernière, j'en ai quatre, en fait. Mais ça, l'inspiration, c'est hyper, hyper important. Donc, ce cadeau-là, je le pose aussi. C'est une phrase que moi, je me suis dite à moi-même, qui est un de mes mantras maintenant. Et que je vous donne parce que je trouve qu'elle est assez interpellante. Heureusement que j'ai essayé d'être heureuse, sinon j'aurais pas su que je pouvais y arriver. Voilà.
Et c'est quoi le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui ?
Le conseil que j'aimerais... Alors... Bah alors là, c'est une bonne question. J'ai un peu de blanc, mais je suis en train de réfléchir. Le conseil que j'aimerais qu'on me donne, j'aurais bien aimé qu'on me dise plus souvent, cultive la bienveillance avec toi-même, sois écologique avec toi-même. Sois bienveillante, sois bienveillant. Ouais. Avec toi-même.
C'est quoi tes prochains défis ?
Alors, le prochain défi, diffuser la BD Résilience et vous le plus possible, parce que j'ai tellement de retours super que, là, je parle pas de vente ou quoi, je m'en fous, c'est pas ça. C'est, je parle de partager, parce que je la sens super utile et que je sens qu'elle aide énormément.
Pour faire un petit, je fais une petite aparté. Moi, je l'ai fini, j'ai fini de la lire hier. Et ce que je trouve génial, c'est ce que je te disais par message hier, c'est que il y a de l'humour. Et le fait que ça soit à la fois de la BD, à la fois du texte, ça permet d'appréhender la chose de façon hyper légère, pragmatique, pratico-pratique. Et en effet, enfin, moi, tu vois, j'ai vécu un burn-out et j'ai vécu une séparation hyper douloureuse avec mon mari, avec qui j'étais depuis 17 ans cet été. Et du coup, quand j'ai lu toutes les choses, ça te permet de te dire, OK, alors ça, clairement, je suis trop bonne là-dedans et t'es trop fière de toi. Tu te fais des petits high-fives en disant, oh, ouais, je suis trop forte. Et d'autres, tu te dis, ah, attends, ça, ce truc, c'est clairement, j'ai encore un peu de travail là-dessus. Et clairement, c'est drôle parce que j'ai une de mes bonnes amies qui a vu le partage que j'avais fait en story sur Insta. Et qui m'a dit, ah, ça a l'air trop bien et tout. J'ai dit, bah, écoute, je te le prêterai parce que vraiment, c'est une belle leçon de la vie. Et tu vois, je me suis mis des petites cornes sur pas mal de pages en me disant que j'aimerais creuser certains sujets parce que clairement, ça, la résilience, enfin, le message que tu dis, c'est en effet, moi, c'est ce que je dis, depuis mon burn-out, c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'en effet, derrière chaque épreuve, il y a des belles choses. Alors, clairement, c'est ce que j'écrivais dans ma newsletter de ce matin qui n'est pas partie encore, c'est que bon, il faut parfois laisser un peu de temps derrière chaque chose. Parfois, les épreuves sont plus ou moins difficiles, donc le cadeau est plus ou moins facile à voir. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il y a toujours le soleil d'après la tempête. Et quand tu as foi en ça, ça te transforme la vie. Et ce qui est génial, c'est qu'avec ton livre, il y a vraiment des outils pour pouvoir rendre des choses actionnables et facilement.
Mais c'est ça, en fait, ce que je voulais absolument dans ce livre-là, même si au début, je l'avais écrit pour moi, donc c'était encore un cheminement. Tu vois, à chaque fois, c'est boum, soit pour moi, puis ça se transforme pour les autres, soit pour les autres, soit pour moi. Et en fait, ce que j'ai voulu absolument, c'est qu'à travers l'histoire de Ben, et qu'on voit, ça part de la paire de soie poisson rouge. Je spoile pas le livre quand je dis ça parce que c'est écrit sur la quatrième de couvre. Il perd son poisson rouge, mais derrière, ça réveille quelque chose de beaucoup plus profond. Et ce que je voulais en fait signifier, c'est qu'il n'y a pas de petites ou de grandes épreuves, parce que la perte d'un poisson rouge, ça peut être traumatisant. C'est vraiment quelque chose qui peut être traumatisant. Donc il n'y a pas de petits et de grands malheurs déjà. Et puis à travers l'histoire de Ben, je voulais absolument, effectivement, il y a mon côté truc et astuce. Moi, je ne peux pas écrire un livre sans qu'il y ait des trucs et astuces quelque part, ça c'est clair, que ce soit utile et ludique, que à chaque étape, on puisse se dire, voilà, il y a 10 étapes, alors on appelle ça les étapes de la guérison, mais en réalité, effectivement, c'est le cheminement pour pouvoir se rendre compte de ses compétences de résilience et identifier ses capacités, ses talents et ce qu'on voudrait soit renforcer, soit développer. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que le lecteur puisse, à chaque étape, comprendre ce qu'est la résilience. Et après, effectivement, comme tu le disais très bien, c'est... au fur et à mesure de la lecture, et c'est ce qui se passe quand j'anime les conférences sur la résilience ou les ateliers d'accompagnement sur la résilience, c'est que je vois petit à petit les gens se rendre compte mais qu'ils sont résilients et qu'ils ont des qualités de résilients, des capacités, des talents. Et ça, moi, personnellement, ça m'a amené un shoot d'estime de moi, de confiance en moi, qui m'a permis de me dire « Ok, mais j'ai ça déjà comme assise. » C'est-à-dire que oui, demain, les épreuves seront plus ou moins violentes, mais je sais que j'ai telle ressource. Et ça, la vie, ça n'a pas de prix. Et donc, par le biais des fiches pratiques, l'idée, c'est effectivement d'aller pas à pas, petit à petit. La théorie des petits pas, c'est vraiment une théorie à laquelle j'adhère. aller actionner, observer son environnement, observer sa personnalité, et puis se dire « Ah tiens, ah mais moi, si ça, je l'ai !» Parce qu'il ne faut pas avoir tous les leviers pour être résilient, il ne faut pas avoir toutes les caractéristiques d'une personnalité résiliente pour être résilient. Mais quand on en a quelques-unes, bah, hop, ça aide, et on commence déjà, voilà, ça germe, et puis on peut se dire « Ah bah tiens, ça, je vais peut-être aller le développer. » Et souvent, vous verrez que s'il y a un levier que vous identifiez, que vous dites « Ah, mais celui, je ne l'ai pas trop, mais j'aimerais bien », c'est qu'il est déjà un petit peu là, mais qu'il faut juste aller creuser, quoi.
C'est le miroir.
Voilà, c'est vraiment qu'il soit utile. Et les témoignages aussi, on a tellement de retours supra-positifs des lecteurs que bah, on a envie, en fait, qu'il soit super diffusé, quoi. Donc, on œuvre pour ça vraiment sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'invite à tout le monde à aller le découvrir. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième... Cette année, c'est la chauve-souris va faire un festival d'Avignon 2023.
Donc, génial.
C'est un projet. Donc là, voilà, je vais en parler sur les réseaux sociaux prochainement. Voilà, je vais compter sur la communauté qui me suit, sur tout ça. Enfin, je me dis, c'est un défi que je me lance et j'ai envie de le faire. Et voilà, je vais le faire. Ensuite, troisième projet qui est un projet extrêmement important pour moi cette année, c'est le lancement d'une plateforme de levage de fonds. Pour la sortie de la BD de la chauve-souris. Donc, je vais adapter mon spectacle. Donc, le spectacle de la chauve-souris, c'est un spectacle dans lequel je raconte mon cancer, l'histoire de mon cancer de manière très décapante et humoristique. Donc, c'est mon parcours de résilience, hein, de la maladie jusqu'à l'après-maladie. Et en fait, j'ai décidé de... parce que les gens me demandaient tout le temps si une BD existait, j'ai décidé de signer une BD. Donc, il y a une maison d'édition qui me suit. Et ce qui est génial, c'est que la maison d'édition me suit, mais je leur ai dit, je voudrais quand même d'abord l'offrir. Ils m'ont dit, on te suit aussi.
C'est-à-dire génial.
Que je lance une plateforme là dans les prochaines semaines de dons.
On mettra le lien sur le blog, comme tous les liens vers ton site et tes livres.
Bien sûr. Et en fait, l'idée, c'est de lever des fonds d'abord pour l'offrir à des malades, à des accompagnants, aux gens qui ne peuvent pas venir voir la pièce ou qui aimeraient l'offrir à un proche qui est affaibli et qui ne peut pas venir. Donc, l'offrir à des associations de malades, à des hôpitaux, à des services de santé et également à toutes les entreprises, les villes, les assos, les particuliers qui souhaiteraient la précommander. Donc, il y a une plateforme qui va être lancée de bientôt à fin mai et on la livrera en avant-première aux donateurs en septembre et en octobre, elle sera diffusée plus largement. Et donc, je suis hyper fière de ce projet-là parce que c'est quelque chose que le public me demande depuis le départ et que je suis contente de le faire comme ça et d'être suivie par une maison d'édition qui me suit sans condition de levée de fonds en me disant « Allez, on y va !» Et parce qu'ils adorent le projet, qu'ils trouvent que c'est super. Et les premières planches, elles sont juste extraordinaires. Je suis hyper contente. Donc, il y a ce projet-là. Et puis, plus tard, là, je vais commencer à écrire parce que je suis dans ma blessure sur la maternité et tout ça pour pouvoir à nouveau... parler au nom de parfois petites communautés qu'on représente pas forcément et que j'ai envie de porter la parole parce que je sens que ça devient juste pour moi de le faire. Et quoi d'autre? Mon podcast, du coup, qui s'appelle La Minute Trampoline de Caroline. J'ai fait une saison 1. Je fais par saison parce que comme j'ai une activité saisonnière, je peux pas être partout. Et donc là, j'ai lancé la saison 2, et dans lequel je raconte mon histoire et puis les leçons de vie que je tire et à chaque saison j'ai un invité résilient, souvent multirécidiviste, souvent aussi qui vient partager son histoire. Voilà, en gros les projets, donc c'est beaucoup de choses. Voilà.
Top. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous?
Alors, un conseil de lecture à partager. Un livre que j'ai commencé à lire, que je vais continuer à lire dès que j'aurai un peu plus de temps, c'est Consolation de Christophe André, parce que du coup j'ai découvert que c'est, on me l'a offert à Noël, j'ai découvert que c'était un livre qui parlait de la résilience justement, et donc ouais, je le conseille. J'ai commencé et je pense que c'est un livre qui peut aussi beaucoup apporter sur cette thématique-là.
À qui as-tu envie de te dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
À beaucoup de monde. À toutes les personnes qui ont été là au bon moment sur mon chemin de vie, à une personne en particulier, mon mari Yuen, qui est là à chaque instant et qui contribue à m'aider à croire en moi. Les silences, s'ils sont pas coupés au montage, c'est parce que je suis émue en général.
Ils seront pas coupés au montage.
Et à moi-même. J'ai envie de me dire merci à moi-même. Voilà, en résumé.
Un grand, grand merci, Caroline. Bon, du coup, je mettrai tous les liens sur le site pour retrouver la plateforme pour pouvoir aider des personnes à recevoir ce livre comme un cadeau. Le lien vers ton spectacle, s'il y a des personnes qui ont envie de te faire intervenir en entreprise ou autre. Et pour pouvoir savoir où est-ce qu'on peut trouver tes livres dans n'importe quelle librairie en commande.
Dans toutes les librairies, ça s'appelle... Alors, le dernier livre, c'est... Donc, le premier, c'est « Le complexe du trampoline » de chez Flammarion, et c'est dans toutes les librairies et sur les plateformes en ligne. Hein, vous tapez... Le complexe du trampoline, Caroline Leflour, vous le trouverez. Vous pouvez aller aussi sur mon site internet carolineleflour.com, il y a les références. Et la deuxième qui vient de sortir, donc sur la résilience, la BD. Donc Résilience, c'est vous, c'est le courrier du livre, l'éditeur. Même chose, vous trouvez les références sur mon site internet et dans toutes les librairies et sur toutes les plateformes.
Et s'il n'est pas dans les librairies, vous pouvez demander à votre libraire qui le commande.
Bien sûr, c'est ça.
Voilà. Un grand, grand merci, Caroline.
Merci à toi, Charlotte.
J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi pas moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.